En compagnie de Pierre Dubois aux Utopiales de Nantes, bonjour.
Bonjour, bonjour aux Utopiales de Nantes.
Dernièrement, pour vous, au niveau sortie, vous avez Les Comptines Assassines et puis une bande dessinée Changeling. Pour commencer par Les Comptines Assassines, qu'est-ce qui vous a le plus intéressé dans le fait d'avoir transformé ces contes?
Les Comptines Assassines, déjà, c'est un peu la suite des contes de crime. Donc c'est, pour moi, si tu veux, une espèce d'échappée. C'est aussi une espèce de gourmandise. Disons que pour les encyclopédies ou les contes, c'est quand même des contes traditionnels, même si de temps en temps je leur fais un peu mal, je les tords un peu, je les transforme très légèrement malgré tout. Je suis quand même, disons, une espèce de... Je me sens obligé de passer le conte tel qu'il est. Tandis que là, si tu as, pour moi, il y a la grande mythologie, hein, qui est celle des dieux, où on parle de la naissance du cosmos à travers la mythologie des dieux, des dieux celtes ou gréco-latins, etc., germains. Et il y a la petite mythologie du petit peuple, des campagnes qui étaient plus accessibles aux gens, qui était la pensée magique du quotidien. Et à côté de ça, on a notre propre mythologie. Tu te fais ta propre petite mythologie, tu vas à droite, tu vas à gauche, tu vas grappiller, tu vas puiser dans le grand chaudron magique des contes, et aussi des contes littéraires et des personnages qui sont devenus des mythes. Par exemple, Sherlock Holmes est passé dans la mythologie, c'est devenu un mythe, le chien des Baskerville, Dracula, bien que ce soit des créations littéraires, ça devient aussi, ça fait partie d'une autre mythologie. Donc j'aime beaucoup mélanger, disons, mes goûts, mes amours, mes tendresses. Alors Sherlock Holmes, j'adore Sherlock Holmes, mais quel plaisir de prendre Sherlock Holmes vieillissant et lui, si logique, si froid, si glacé, de lui donner une âme, de lui donner aussi une certaine folie, lui qui d'ailleurs devait être un peu fou, poussant aussi loin la logique, mais justement de le désarçonner et lui donner une âme d'enfant, ça me fait beaucoup plaisir de reprendre Alice, qui est aussi un personnage littéraire, de la mythologie littéraire, mais de la mythologie aussi de l'enfance, et de reprendre tous ces contes, tous ces comptines, ça me fait un bien énorme. Donc j'ai l'impression de faire de la broderie, je m'amuse du tricotage, tu vois, du tricot vieillissant entre deux bouquins. Je m'enferme dans mon bureau et je tricote. Je me fais plaisir, si tu veux. Alors, on peut me reprocher, effectivement, de faire peut-être un petit peu trop de points de croix, tu vois, de ciseler un peu trop, de faire un peu trop de broderie anglaise, mais j'adore ça, quoi, tu vois. Le résultat, c'est autre chose. Mais, tu peux louper. Mais, disons que, oui, je fais un fusée aussi monté, on peut me dire, il est un peu fade ton thé, ou il est un peu ceci, un peu cela, mais malgré tout, moi je me fais plaisir. Disons que c'est vraiment presque un exorcisme. C'est bon, Jack l'Éventreur, je peux parler de Jack l'Éventreur, je peux y mêler le petit chaperon rouge, je peux y mêler des petites horreurs, je me fais du bien, je m'amuse.
Par rapport au compte que vous donnez en public, le fait d'avoir un texte définitif, c'est pas des fois un peu frustrant? On n'a pas envie de revenir un petit peu de temps en temps, changer de trois petites choses, puisque quand vous faites vos comptes en public, il y a une énorme part d'improvisation.
Oui, si tu veux, ça dépend du public. Hein. Moi, je suis pas un vrai conteur. Tu as des conteurs, de grands conteurs, qui, eux, si tu veux, viennent avec un spectacle. Hein, tu as vraiment de grands conteurs. Patrick Ewen, par exemple, est un conteur extraordinaire. Il vient, il pose sa voix. Moi, c'est différent. Tu vois, je raconte des histoires plus. Tu vois, je raconte des histoires. Plus un peu comme on devait peut-être les raconter au coin du feu, tu vois, le grand UPP qui racontait ces histoires de la guerre 14 aussi, tu vois, le conteur du coin du feu, adapté, si tu veux, il avait son conte, il avait sa trame, mais en voyant les réactions des gens, il s'adaptait, il en rajoutait ou il en enlevait. S'il y avait par exemple de jeunes petites gamines effarouchées, je crois qu'il en rajoutait dans l'horreur, en racontant des histoires, enfin un petit peu pour les faire prévenir, pour les voir se blottir l'une contre l'autre et faire peur. Si par contre il avait des joyeux drilles, il en rajoutait dans le dans la grivoiserie. Et moi c'est ce que je fais, si tu veux, c'est que j'ai une trame, quelques histoires à passer. Il est vrai aussi, si tu veux, que ces histoires aussi sont des prétextes pour critiquer la société de temps en temps. C'est une trame, tu vois. Et là aussi, tu viens rajouter. Et si je vois ou j'entends quelques spectateurs rire à certaines boutades, j'en rajoute, tu vois. Bon, s'il y a des tout petits, je vais raconter, je vais être plus soft. Si ça marche plutôt dans le hard, je vais aller dans le hard, tu vois. C'est selon, quoi, tu vois, c'est même le très hard, et même le mauvais goût, tu vois, quelque chose d'affreux jeu de mots, quoi, tu vois. Bon, par exemple, lorsque Gauvin va combattre, quand le roi Arthur l'envoie combattre des monstres, tu vois, j'adore dire qu'il y avait un monstre épouvantable qu'il a tué, qui s'appelait Pital, et il a Occipital, tu vois, c'est vraiment affreux, je sais bien, mais ça me fait du bien, tu vois, c'est de...
Sur la bande dessinée Changeling, est-ce que c'était un conte que vous racontiez ou est-ce que c'est un scénario original?
Non, c'est, disons que le personnage du Changeling, du Changelin en France, c'est un personnage qui est quand même, qui moi m'intéresse beaucoup, dans la mesure où j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont des Changeling, qui sont là un peu dans une société, et qu'on est peut-être tous des Changeling, et que, enfin, pas tous, certains, puisqu'il y en a qui profitent de ne pas être des Changeling pour devenir des singes dominants, mais le Changeling, si tu veux, c'est au départ la légende du Changeling, Dieu crée la terre et il est entouré de ses archanges, de ses anges. Et puis bon, tu le sais, il y a Lucifer qui va se révolter, qui lui dit non, moi je le pas d'accord, et il s'en va. Dieu le maudit. Et cet ange de lumière va entraîner avec lui toute une partie d'elfes, enfin de créatures qui vont le choisir. Ceux-là vont être maudits par Dieu, être précipités en enfer, et ça va être les démons, les êtres des ténèbres, les incubes, les succubes. Par contre, ceux qui vont rester avec Dieu vont devenir les anges, les archanges, les personnages lumineux. Et il y a une partie qui ne sait pas choisir, qui ne peut pas choisir ni le bien ni le mal, qui n'ont aucune notion ni du bien ni du mal, comme la nature. Tu vois, la nature n'a pas de... Elle est la nature. Et ce sont le peuple de Féerie, le petit peuple. Le petit peuple sont les esprits de la nature. Et donc, ils n'ont pas à choisir entre le bien et le mal. Ils sont ce qu'ils sont. Mais, malgré tout, ces êtres de Féerie sont obligés de payer un tribut au diable régulièrement et doivent donner un de leurs enfants. Mais évidemment, ils n'y tiennent pas du tout à donner un de leurs enfants au prince des ténèbres. Donc, ils vont voler un petit salé. Un petit salé, c'est-à-dire un petit enfant d'humain qui a été baptisé par le sel, donc un petit salé. Et ils vont l'échanger contre un des leurs. Ça, c'est la légende du Changeling. Alors, c'est assez amusant aussi, parce qu'il y a peu de temps, on m'a raconté, j'ai rencontré une Irlandaise, dont Rousse et Forgely, et qui me racontait donc que sa grand-mère habillait son père en petite fille, lorsqu'il était petit, parce qu'en fait, les fées enlevaient surtout les garçons. Et donc, pour les tromper, on déguisait en petite fille des garçons, pour ne pas être mais c'est presque récent, pour ne pas être enlevé. Alors Arthur Machen, lui, qui habitait le Pays de Galles, pensait réellement aussi que des êtres habitant sous les collines volaient des enfants pour renouveler le sang, par contre, de leur race. Comme il y avait un cousinage, ça bâtardisait, ils avaient besoin de sang neuf, et ils y croyaient dur comme fer. Il y a aussi la thèse que les bohémiens volaient les enfants. Et on a souvent pensé que peut-être toutes ces croyances aux fées, si on voulait leur donner une réalité, venaient des bohémiens. Les fées sont soi-disant avec un teint safrané, tu vois, avec des bijoux, des jupes, des robes de toutes les couleurs, étaient rétameurs comme les bohémiens, vivaient dans les grottes, étaient des gens du voyage, dansaient la nuit autour des feux, avaient des êtres bizarres avec eux. Les singes parlaient aux ours, tu vois, étaient accompagnés d'ours. Donc, ils avaient fait une espèce de filiation avec ce peuple maudit aussi, un peu, tu vois, toujours chassé et les fées. Quand dans mon Changeling, j'ai choisi cet enfant parce que, si tu veux, j'ai l'impression que, bon, les contes, les légendes évoluent encore aujourd'hui, tu as les légendes urbaines, tous ces vieux mythes ne meurt pas, évolue, bouge. Et là, j'ai choisi l'époque victorienne parce que je trouve que cette époque victorienne ressemble beaucoup à la nôtre, où tu as d'un côté les riches, les puissants, et de l'autre côté une misère de plus en plus noire, de plus en plus sombre, aussi une espèce de perte d'âme, où on regarde la crise qui arrive, on ne parle plus de ces crises, un peu comme à cette époque victorienne, l'argent, le matérialisme, et le besoin qu'on a, et alors c'est flagrant à notre époque, c'est ce besoin de rêver qui revient, de par les enfants, qui, alors qu'on a voulu absolument leur rogner les ailes, ne plus parler des fées, ne plus parler des lutins, la littérature, il y a quelques années, c'était du social, j'ai volé ma première bécane, Jean-Paul épouse Henri, grand-père s'est cassé quand est mort, tu vois, a cassé sa pipe, maman est partie, ma première cigarette, ma première picouse, tu vois, ce genre de trucs, ils n'en ont vraiment rien à faire. Les éditeurs ont absolument voulu imposer cette littérature, et puis tu vois, ça a craqué. Ils veulent à nouveau chevaucher avec le roi Arthur et combattre les orques aussi à la quête de l'anneau, ou aller à l'école des sorcières de Harry Potter. C'est réjouissant, quoi, si tu veux.
Avec votre personnage de petit enfant qui est tout naïf, innocent, sa grande sœur, on la soupçonne peut-être un petit peu plus au fait des choses. Et c'est en parfaite opposition avec justement la dure réalité de la vie, parce que l'époque victorienne, mais vous avez peut-être un peu forcé le trait d'ailleurs. C'est la misère avec un grand M, j'ai envie de dire.
Oui, non, j'ai vraiment pas forcé le trait. Je suis allé dernièrement, encore il y a un mois à peu près, à Londres, et je suis allé dans le quartier de Whitechapel. Il y avait une grande exposition sur Jack l'Éventreur, et c'était épouvantable. Les sans-abri, il y en avait encore plus. Ils mouraient dans la rue. C'est absolument épouvantable. T'as Jack London qui a écrit Le Peuple de l'Abîme. C'est absolument épouvantable. Tu avais les gamins, les gamines se prostituer à 12 ans, tu vois, dans les rues, pour dormir. Ils rentraient dans des espèces, quand ils pouvaient se le payer encore, rentrer uniquement dans un hangar, et ils dormaient, tu te rends compte, accoudés à une corde. Ils ne pouvaient même pas dormir, ils s'accoudaient à cette corde, et le matin, lorsque le jour pointait, ils avaient donc payé le temps de la nuit, eh bien, le veilleur arrivait et paf, défaisait la corde, et tout le monde tombait par terre. Et j'ai aussi vu un truc absolument incroyable, tu as un marchand de cercueils, fabricant de cercueils, qui la nuit, pour se faire un peu plus d'argent, louait ces cercueils, les gens venaient dormir dedans. Ceux qui avaient de l'argent, ceux qui avaient suffisamment d'argent pouvaient au moins dormir dans un cercueil plus ou moins capitonné, passer la nuit dans un cercueil. C'était terriblement symbolique en plus, tu vois, c'était pratiquement des morts vivants. Et donc, pourquoi j'ai mis cet enfant qui quitte le Dartmoor, qui est une région rêvée, où tout vivait, les gens vivent en harmonie avec la nature, avec tu sens qu'il y a une vie heureuse, et ils ont tous quitté la campagne, attirés par le besoin d'argent dans les villes, mais de véritables métropoles polluées du fog, de la suie, des miasmes qui respiraient. C'était Métropolis, et puis même les enfants, Dickens le raconte, Dickens a travaillé, lui, dans une fabrique de boîtes à cirage. Là, notamment, dans cette exposition, tu vois aussi des crânes d'ouvriers qui travaillaient dans les fabrications d'allumettes et qui étaient rongés par le phosphore. Et tu as des crânes de gens... L'os est complètement ravagé. Tu as l'impression de voir le crâne d'Elephant Man. Quoi. Tu as des faciès complètement rongés, complètement boursouflés, les os qui poussent d'une façon anarchique, qui se crevassent. Et donc, il vivait là-dedans. Et donc, cet enfant, qui est un enfant des fées, va brusquement connaître cette horreur. Mais, comme c'est un enfant des fées, comme le vieux de la forêt, comme le Merlin de la forêt, comme Kernunos, comme l'homme sauvage, comme Jack in the Green, lui a dit, mais si tu vas en ville, si tu regardes bien, de toute façon, la ville, c'est la forêt aussi. Une maison est construite, surtout à cette époque-là, avec des briques qui viennent de la terre, de la glaise, avec des charpentes, donc du bois. Donc tu vas retrouver les esprits de la forêt, tu vas retrouver les esprits de la nature, il y aura des oiseaux aussi. Lui, ce Changeling va rentrer dans ce métropolis, dans cette maison, cette énorme maison qui ressemble à un enfer, qui est le Londres victorien, lui va retrouver un peu sa forêt. Alors, bon, il va lui arriver un tas de misères, mais il y a quelque chose qui reste en lui, et il y a aussi un petit personnage qui voit le double, un double qui aperçoit régulièrement, et en fait, c'est son frère. Et c'est pour ça que lorsque... Ah oui, c'est vrai, c'est le premier tome, je ne peux pas raconter davantage. Mais... mais donc, on voit toujours une petite silhouette qui est le singe. Et en fait, le Changeling, c'est l'enfant changé. C'est son frère, quoi, qui est qui est le vrai petit bébé qui est élevé par les fées de l'autre côté, quoi.
Et puis, il a aussi le vieux monsieur qu'il rencontre dans le parc, voilà. Qui...
Oui, en fait, si tu veux, au départ, tu as un cairn et il a l'enfant élu, quoi. Il y a l'enfant élu, tu as le vieux qui est là, qui est le grand sage. Tu as Sheila, enfin, il y a une fée, quoi, qui est là, qui en fait, Sheila Nigg, qui est la femme de l'homme vert, qui est la femme verte et qui est sa sœur protectrice, plus ou moins. Tu as aussi un chevalier qui est là, qu'on va trouver dans le second épisode et qui sera un ouvrier guerrier. Tu as un nain qui va rencontrer aussi dans les mines. Il va rencontrer tous ces êtres qu'on voit qui gardent la porte, qui sont les gardiens. Et je te raconte pas, mais en fait, tous ces personnages-là, notamment le vieux qui va rencontrer à Kensington Garden, c'est aussi une des images du vieux. C'est encore un visage de Merlin. Il va rencontrer tous ces personnages-là qui vont l'aider au cours de sa quête, qu'il est en train de poursuivre innocemment, parce que lui, il ne sait pas d'où il vient, il ne se pose même pas la question. Si, à un moment donné, dans ce second épisode, il dit « Pourquoi je ne grandis pas, moi ?»« Il n'y a que mes oreilles qui grandissent », dit-il à sa sœur. « Mais t'inquiète pas, c'est bien comme ça. » En fait, c'est souvent, comme dans les contes, c'est un récit initiatique. Un enfant qui naît dans la forêt, comme un petit poussé, va brusquement être obligé de traverser toutes les épreuves, une civilisation monstrueuse quelque part. Les fées, les lutins, n'étant pas eux les monstres, même les pires, je crois, démons, sont de véritables enfants de cœur par rapport à ceux qui nous gouvernent.
Est-ce que vous avez déjà une date approximative de la sortie du deuxième volume ?
Le deuxième devrait sortir en avril, il est terminé. On attaque déjà le troisième, il y a Fourquemin qui dessine plus vite que son ombre, qui est vraiment un garçon qui est passionné par son travail, qui travaille d'arrache-pied, qui recommence, qui fait des plein de croquis, qui m'envoie, est-ce que c'est bien. Alors j'adore ces crayonnés, je dis pas que je n'aime pas le dessin, mais ces crayonnés sont absolument extraordinaires, très vivants, j'ai l'impression de voir du Beauville, c'est vraiment... c'est ça qui est assez étonnant, c'est que son dessin m'oblige un petit peu à changer le texte. Il me demande pas de changer le texte, mais son dessin m'inspire. C'est-à-dire que je vois dans le second, j'avais prévu une autre fin, et emporté par son besoin de dessiner, son goût du travail et son goût de dessiner, et à la fin où il y a une espèce de bon d'accident d'une mine de charbon qui va exploser, et j'avais prévu en une page, quoi, une planche, et il m'en a fait 4-5, quoi. Il avait envie de montrer toutes les flammes qui vont lécher les couloirs, les corridors, les tunnels, les cheminées qui explosent, les chevalets qui fondent, qui s'écroulent. Donc en fait, on s'arrête là, quoi, du coup. Et la fin, on la trouvera dans le troisième... Enfin, la fin de cet épisode-là, on le trouvera dans le troisième épisode, quoi, en fait. Il en rajoute, comme il se paye quelques moments de moments de bravoure, comme ça, là, je ne vais pas lui gâcher son plaisir.
Et vous avez encore un autre ouvrage qui vient de sortir ?
Oui, alors là, c'est un bouquin de cryptozoologie. Disons que j'ai écrit, mais que je n'ai pas eu l'idée. Mais l'aventure est assez amusante. C'est un jeune dessinateur, un jeune créateur qui sortait de l'école Cole à Lyon, qui m'a envoyé un projet. Déjà, la manière dont il m'a envoyé le projet, il m'a trouvé, c'est déjà presque une aventure, parce qu'il savait, au lieu d'envoyer son projet à l'éditeur, ce qui m'aurait semblé tout à fait logique, non, lui non. C'était trop simple, il a cherché à me trouver. Et comment me trouver ? Et bien, il savait que j'habitais dans le Nord, plutôt du côté des Ardennes. Ils savaient que j'habitais donc près d'une rivière, qu'une rivière coulait au pied de la maison, et donc il a pris une carte. Carrément, oui, il a pris une carte et il a cherché les rivières du Nord. Alors il a vu la Deule, il s'est dit maintenant c'est du côté de Lille, ça m'étonnerait qu'il habite à Lille ou dans une grande ville. Il doit habiter la campagne, comme on dit que c'est près des Ardennes, ça doit être plutôt dans ce coin-là, dans la Vénois. Et il a trouvé une rivière qui s'appelait l'Elpe, effectivement, Elpe, que j'appelle de temps en temps l'Elfe, tu vois. Et il s'est dit ça doit être ça. Et donc il a pris l'annuaire, il a cherché un Dubois dans l'annuaire, dans les petits patelins de... Et il a fini par me trouver, donc je trouve ça quand même très, très drôle. Et donc c'est un gars étonnant qui vit dans son monde, et son monde est très riche. Et c'est étonnant qu'un garçon si jeune, déjà un univers si riche, il vit dans le 19e, tu vois, pratiquement dans un monde du 19e de Jules Verne. Donc il m'a envoyé ce projet où il y a des dessins j'aime un peu moins, mais où il photographie, son père étant photographe, a encore des vieux appareils, des daguerreotypes et tout. Il photographie donc des paysages sur lesquels il vient coller des personnages habillés en 1900 et des bêtes disparues telles que les harpies, tels que Nessie, le monstre du Loch Ness, des ptérodactyles dragons, le Mokelemambe. Donc c'est une expédition à la recherche de ces bêtes disparues au 19e siècle. Et c'est un carnet de route complètement étonnant dans la mesure où il a même reconstitué le dodo, l'oiseau, oui, avec des plumes et tout, oui, j'ai l'impression d'avoir le dodo. Il a reconstitué des vertèbres de dragons, des mâchoires de dragons, qu'il a même carbonisé pour montrer qu'elles pouvaient cracher le feu. Un tas de petits objets, c'est étonnant, il a un monde. J'ai réussi à convaincre mon éditeur qu'il fallait absolument le publier, et moi j'écrivais les Contines assassines pendant ce temps-là. Mon éditeur m'a dit, mais voilà, donc il te reste plus que 2 mois pour finir le texte de ce jeune homme. Parce que moi, je croyais en fait qu'il l'avait écrit, quoi. Et non, pas du tout. J'ai dû me coller à l'écriture de ce bouquin. Ça a été un peu un pinceau, quoi, si tu veux, parce que puis après, je me suis pris au jeu. C'était amusant de pasticher un journaliste du 19e, quoi, tu vois, face à tous ces monstres, à tous ces personnages. Donc, je me suis amusé. En plus, ça m'a permis aussi de, alors, il a inventé le renversoscope. Parce que si tu veux, parce que les faits, tu les vois toujours sur le côté uniquement, par le côté de l'œil. Ce qui fait qu'il a créé un appareil photo avec des jeux de miroirs. Tu crois photographier devant toi un paysage, mais en fait, ça photographie sur le côté. Quelquefois qu'on pourrait justement réussir à saisir un cliché d'une fée ou d'un fantôme. Enfin, tu vois, c'est vraiment... Donc je me suis amusé, quoi. En plus, moi qui adorais le cinéma des années 50 avec les films d'aventure, avec Tarzan, avec Gungadin, avec les Trois Lanciers du Bengale, et ces trucs-là, ça m'a permis de, si tu veux, de là aussi de me faire plaisir en faisant des petites allusions à des gens qui ont vu tous ces films-là, quoi. Tu vois, par exemple, ça va passer à mon avis au-dessus de la tête de beaucoup, parce que si tu veux, notamment des jeunes qui n'ont jamais vu ce film-là. Mais les Trois Lanciers du Bengale, tu sais, les héros, on les fait parler en leur enfonçant des éclats de bambou sous les ongles, on y met le feu, tu vois, et ils résistent pas, sauf évidemment Gary Cooper, quoi, c'est lui qui résiste, quoi. Gary Cooper s'appelle McGregor là-dedans, et donc il y a un chasseur de tigres qui va sauver les héros, quoi, les chasseurs de chimères, et il a la sale manie de se curer les ongles avec un éclat de bambou, tu vois. C'est des petits clins d'œil comme ça, mais ça m'a amusé, quoi, tu vois. Il n'y a pas de petit plaisir.
Et vous travaillez sur quoi actuellement, précisément ?
En ce moment, je travaille sur un très, 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 très vieux projet qui traîne depuis des années, enfin qui ne traîne pas dans la mesure où, si tu veux, je vais enfin utiliser en bouquin toutes les émissions que j'ai pu faire en radio, en télé, etc., toutes ces contes sur la faune, la flore, sur le mythologie du jour le jour, une espèce d'almanach que j'ai commencé à faire en télé et en radio à partir des années, enfin de 68-69. J'ai gardé toutes ces notes. Et donc je vais faire une espèce d'almanach enchanté de la faune, de la flore, des saisons, qui va s'appeler l'Elphéméride, mais et qui, je pense, sera un petit peu dans le style des encyclopédies.
Ce sera disponible chez votre éditeur des Contines Assassines ?
Oui, chez Webeck, oui, chez Webeck, Hubeke, Webeck. Et dont le nom, en fait, en flamand, signifie petit ruisseau. Enfin, il y en a qui disent petit ruisseau, il y en a qui disent petite flûte, petit hautbois. Ça lui va pas du tout.
La couverture des Contines Assassines a eu un prix, il y a peu de temps.
Je suis très content pour Jean-Baptiste Monge, il a eu ce prix. Ça m'a fait d'autant plaisir que, en fait, il y a des années, il était venu me voir avec ses dessins à Château-Giron, je crois que c'est à Château-Giron, il était venu me montrer ses dessins. Et j'avais été estomaqué de voir ce qu'il faisait. Il était très jeune encore, et j'avais fait des pieds et des mains auprès de mon éditeur pour que ce soit lui qui illustre les encyclopédies. Enfin, il était trop tard. Les encyclopédies étaient illustrées par Sabatier, j'aime bien ce que fait Sabatier. Mais là, je voulais aider Monge, et on n'a jamais pu travailler ensemble. Tu vois, on n'a jamais pu. Ça ne s'est jamais présenté. Là, il a sorti un bouquin, les Celtic Fairies, et il m'a demandé de les préfacer, donc j'ai été très content de les préfacer, parce qu'on est amis, tu vois, et ça m'a toujours embêté de ne pas travailler avec lui. Ennuyé, j'avais l'impression qu'on aurait pu faire des choses très bien ensemble. Et là, tu vois, pour la seule fois où on travaille ensemble, alors que ce n'est qu'une couverture, boum, il a le premier prix, et ça fait très très plaisir, quoi, tu vois.
Vous avez quelque chose que vous aimeriez nous dire de plus ?
Tu veux, en ce moment, je suis un peu inquiet, si tu veux, sur le merveilleux, sur le fantastique. C'est vrai qu'en 68, en 69, quand j'étais venu avec mon bouquin sous le bras, voir tous les éditeurs, et j'ai été refusé par tous les éditeurs, pratiquement, avec les encyclopédies, les lutins, les fées, ça n'intéressait personne. Quand j'ai voulu trouver un illustrateur, il n'y en avait pas, et ça ne les intéressait pas. Et parler du renouveau de l'âge d'or, effectivement, c'est merveilleux, et en même temps, je suis un peu inquiet. Il y a un film que j'ai beaucoup aimé, qui s'appelle Le Mystère des Fées, je ne sais pas si tu as vu Le Mystère des Fées, sur les fameuses histoires des fées de Cottingley, ouais, de ces petites filles, Elsie Wright et sa cousine, qui ont photographié un jour des fées dans le vallon de Cottingley, dans le Yorkshire. Dans le film, on voit donc les gens qui ont tellement envie d'y croire, qui viennent dans ce village et qui vont tellement effrayer les fées en marchant partout sur les fleurs, en détruisant tout, en les appelant avec des épuisettes pour les attraper, pour les voir, etc., que les fées s'en vont. J'ai un peu peur en ce moment aussi, c'est que ce royaume précieux, cette part qui est en nous de besoin de rêver, de besoin de... Là, deviennent vraiment très commerciales. Là, on a l'impression que tout le monde se copie, se recopie, se re-re-recopie. On a l'image maintenant d'une fée un peu stéréotypée, un peu désincarnée, j'allais dire, un peu figée, de la fée évanescente ou guerrière avec ses oreilles pointues, etc. Et les effets spéciaux, moi, qui me font un peu peur. C'est bien les effets spéciaux, à condition qu'ils servent une histoire, à condition qu'ils servent à montrer ce qu'on ne peut pas voir. Mais on peut l'imaginer, tout ça. Je vois un film, par exemple, comme Le Mystère des Fées, on les voit à peine, ces fées. La Nuit du Chasseur, qui est un chef-d'œuvre, avec Mitchum, qui est l'espèce de croque-mitaine. Il n'y a pas d'effets spéciaux, on n'en rajoute pas. La maison du diable de Robert Wise, le film en noir et blanc, Les Innocents de Clayton, où on te laisse imaginer avec ta propre peur, avec tes propres ténèbres, avec ton propre mystère, où là justement il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe, mais qui vient aussi de toi, qu'on te suggère. Et là, j'ai peur que l'excès d'effets spéciaux nuise à la magie. Tu vois, la magie, c'est pas les effets spéciaux. La magie se trouve en soi et dans cette espèce d'alchimie qu'on peut avoir avec le mystère, avec le surnaturel, avec le merveilleux, quand brusquement cette alchimie se fait presque à l'insu de toi. Et ce moment privilégié, j'ai un peu peur qu'on ne le galvaude. Donc je suis à la fois heureux de ce retour de l'âge d'or et en même temps, tu vois, je suis un peu, en ce moment, un peu inquiet, quoi, tu vois.
L'important, c'est d'aller chercher le merveilleux, de le débusquer et non pas d'aller l'acheter au supermarché.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Je crois que le vrai merveilleux, rien ne remplacera pour moi jamais le rêve. ce rêve qui te raconte, cette voix du compagnon familier qui est en train de te raconter, ou la magie brusquement d'une image qui va te faire rêver, ou aussi un conteur qui te raconte une histoire, et ou alors le crayon et le papier, la magie du crayon et du papier, et puis de ton état d'esprit, et la présence du brownie, hein, tu sais, Stevenson, lorsqu'il écrivait, disait... qu'il faisait des petits cadeaux à ses brownies, à ses petits esprits familiers de sa bibliothèque, de son bureau. Il laissait un petit peu de whisky, tabac, etc. Le lendemain matin, lorsqu'il arrivait, le travail presque avait été fait. Et je crois que c'est ça l'essentiel, c'est pas la machine. C'est pas le contenant, c'est le contenu. Quand tu vois un film vraiment mauvais, on te dit, oh, mais les images sont extraordinaires, la pureté de l'image, le grain, j'en ai rien à foutre. Si tu vois une merde, c'est une merde. Quelle importance de voir une pureté de la technique. La technique peut aider, mais c'est pas l'essentiel, quoi, tu vois.
Je vous remercie beaucoup.
C'est moi.